où on a eu la joie avec des quelques croyants ici à former cette église et à nous établir ici dans ce lieu. Beaucoup de bons souvenirs, beaucoup d'histoires et des choses que nous avons partagées ensemble ici dans cette ville. Donc ça, pour nous, ça fait de la joie d'être avec vous. On habite actuellement à côté d'Aberville, dans la ville de Mercury. Nous sommes entre guillemets à la retraite. Ça n'a pas changé grand-chose, à part que notre soutien principal vient de l'État des États-Unis et de la France, et pas des donateurs, comme on était pasteur missionnaire ici en France. Mais on est très content de nous retrouver avec vous. Ce que je vais partager avec vous, ce que j'ai à cœur, c'est sans doute quelque chose que nous avons déjà vu ensemble pendant notre ministère ici. Si, quand je commence à traiter le texte devant nous que je vais vous présenter, si vous vous souvenez de cette prédication et vous pouvez donner les quatre points dans l'ordre, vous pouvez faire une pause café et faire autre chose, mais il faut quand même remplir les conditions. Je réfléchis un peu à nos presque 47 ans de ministère ici en France et surtout au début. Jeune missionnaire, jeune pasteur, avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et l'espoir de gagner la France pour Christ, j'allais prêcher l'évangile, il y aurait des réponses, il y aurait beaucoup de bons résultats. Et enfin, j'arrivais au point où je pouvais dire en français assez correct ce que j'avais à cœur à dire. Parce que j'avais beaucoup de bonnes idées, beaucoup de je savais comment présenter l'évangile. En anglais, je savais faire tout cela, mais que faire ici en France pour montrer la gloire de l'évangile comme nous avons chanté, mais d'une manière compréhensible et surtout de voir les résultats. Et alors, dans la région parisienne, je me trouvais un jour j'avais appris par cœur des versets bibliques, je savais exactement comment présenter l'évangile, et j'étais à un café à Paris avec un jeune homme avec qui je pouvais dialoguer, c'était vraiment intéressant, j'ai pu présenter l'évangile, il me posait des questions, j'avais les réponses, tout allait bien jusqu'au moment où je pouvais dire, mais alors là, voilà ce que la Bible dit, donc tu veux quand même accepter ce don magnifique de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as compris? Non, mais écoute, ta présentation... Nickel, excellent, tu as bien maîtrisé ton sujet. Oui, et alors, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais tu as... Non, mais écoute, bravo, merci beaucoup, bonne discussion, bonne continuation. Et il est parti. Ça m'a tellement étonné, j'ai dit, mais alors bien sûr, est-ce que j'ai présenté les choses correctement? Mais ça, c'était le premier événement parmi combien d'autres où on présente l'évangile, on explique des choses, on est convaincu de ce qu'on veut dire, et la réponse est, comme quelqu'un a dit à mon épouse il y a quelques années, après une amitié très longue, « Ah, mais Karen, si un jour je croyais en Dieu, je voudrais croire comme toi, mais je ne le crois pas. » Et c'était la fin des discussions. Et tant après tant, on dit, mais quel est le problème? Pourquoi ces gens ne veulent-ils pas recevoir la bonne nouvelle? Et avec ça, maintenant, même plus que l'indifférence qu'on a constatée depuis le début, il y a même maintenant de plus en plus, à ma connaissance, des gens qui avaient cru en Jésus, qui avaient fait une profession de foi, qui avaient compris tout cela, publiquement, et qui maintenant ne croient plus. Alors on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole de Dieu a changé? Non. Est-ce que nous sommes toujours les ambassadeurs de Jésus-Christ avec la responsabilité de proclamer la bonne nouvelle? Oui. Mais que faire donc cette situation-là? Comment pouvons-nous persévérer dans notre témoignage de partager tout ce que nous avons chanté ce matin? C'était magnifique, tous ces chants qui nous rappelaient à quel point Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et tous les autres versets comme ça. que faire face à l'indifférence et même plus à maintenant le rejet de ce qu'on avait déjà cru. Le passage que j'aimerais voir avec vous, parce que ça, c'est ce texte qui me rappelle toujours pourquoi il faut persévérer, se trouve dans la vie de Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, 5 versets, ce n'est pas long, mais à mon avis, nous rappelle pourquoi il faut toujours continuer de persévérer par la foi, de partager la bonne nouvelle avec les gens autour de nous. Donc, Marc, chapitre 2. Alors, si c'est le chapitre 2, ça veut dire que c'est vraiment au début du ministère de Jésus. C'est une des premières actions de Jésus dans son ministère public. Maintenant, il démarre son ministère pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et du salut qu'il allait nous offrir. Alors, je vais tout simplement lire, je vous invite à regarder dans vos Bibles. Vous avez certainement une multiple de traductions ici, mais je vais lire ce que j'ai devant moi. Mais suivez bien dans vos Bibles et les cinq premiers versets de Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On s'arrête là. Alors ça, c'est quand même remarquable. Jésus démarre, il a un ministère public dans une maison quelque part. C'est tellement, il est tellement bien connu maintenant, déjà, que la maison est remplie. Et nous allons voir comment ces quatre hommes ont pu faire presque l'impossible pour l'amener à Jésus. Mais avant de voir le texte même, je ne sais pas si dans votre Bible, mais d'après ce que j'ai lu, je crois qu'il y a une faute grammaticale dans ce que nous venons de lire, et ça se trouve au verset 5. Alors, regardez bien. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y a un petit problème là. Jésus, voyant leur foi, la foi de qui ? Leur, c'est pluriel. Donc, il parle de la foi des quatre hommes. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Alors, là, on vient à Jésus par la foi, n'est-ce pas? Mais c'est la foi de ces quatre hommes qui permet à Jésus de dire à cette personne-là, tes péchés, à toi, sont pardonnés. Donc, c'est la foi de qui? Ah, ben ça, c'est très intéressant. Ça montre bien que c'est par notre foi que d'autres personnes peuvent venir par la foi à Jésus. Notre foi joue un rôle indispensable pour la proclamation de l'Évangile. Donc, pour nous, ce matin, nous allons rapidement voir ce texte pour voir comment est-ce que notre foi peut être utilisé par Jésus pour qu'il dise à d'autres personnes, « Ah, mais tes péchés sont pardonnés. Tu es maintenant membre de la famille de Dieu. Toi, tu seras avec moi au paradis. » Ça, c'est la question que je me pose régulièrement quand je suis confronté par l'indifférence à l'Évangile, par le rejet de l'Évangile, et même par ceux qui avaient cru et qui maintenant disent, « Mais, moi, je ne vois plus l'importance de suivre Jésus. » Alors, regardons le texte nouveau. au verset 3, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Alors imaginons la situation, et vous qui me connaissez bien, vous savez que j'aime toujours me mettre dans la situation et comme si je vivais le moment. La Bible dit, le texte dit que Jésus est dans une maison, il donne des renseignements, des enseignements sur le royaume, mais il y a tellement de monde dans cette maison que la porte est bloquée, il n'y a plus de place. Donc ça veut dire que beaucoup de gens sont passés déjà à la maison. Mais pour passer à la maison et pour prendre le chemin, bien entendu, où se trouve un paralytique qui était déjà vu par beaucoup de gens? Comment est-ce que je le sais? Parce que les paralytiques, à cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas des maisons de soins comme nous avons aujourd'hui. Il était placé à un lieu public pour vivre des générosités ou de la pitié des gens qui passaient. Et beaucoup de gens avaient déjà passé devant cet homme, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que la maison est déjà remplie. Beaucoup de personnes. Mais quatre hommes s'arrête, même en sachant que il faut aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place qui reste. Il faut écouter Jésus quand même. Non, ces quatre hommes s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la seule solution pour cet homme-là, c'était une rencontre avec Jésus. Pas tout simplement dire « Ah, cher ami, si un jour Jésus passe devant ici, ça serait bien, il faut hurler, il faut crier, il peut peut-être t'aider, mais pardonne-nous, nous sommes pressés, la maison, et il n'y a pas beaucoup de place. » Non, ils étaient convaincus que cet homme-là, il faut faire quelque chose. La conviction, voilà le premier mot principal, la conviction que Jésus est la seule solution pour cette personne. Pas d'autre. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que je pose la question maintenant, même aux églises, sommes-nous toujours convaincus que Jésus est la seule solution? Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Ou comme les apôtres ont compris, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé à part le nom de Jésus-Christ seul. Quand j'ai prêché ça il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens disent, pourquoi est-ce qu'on répète ça maintenant? Si on dit les choses comme ça, attends. Jésus est une vérité, sans doute, mais il y en a beaucoup d'autres. Et dire que ta vérité est supérieure aux autres vérités, mais quel orgueil, quelle audace, mais quel manque d'ouverture. Il faut de la tolérance. La Bible ne parle pas de la tolérance pour cette question-là. La Bible dit que Jésus est la seule solution, mais il faut être toujours convaincu, la conviction que sans Jésus, nos amis, les membres de nos familles, d'autres qui ne professent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, sont perdus. Alors là, mais c'est la vérité, pas une vérité parmi d'autres, la vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'était cette conviction qui les a arrêtés sur le chemin. S'ils n'étaient pas convaincus que Jésus est la solution, je suis sûr qu'ils seraient passés devant comme les autres, peut-être en encourageant, en passant, ou avoir un cœur un peu brisé. Et je me demande aussi, je me mets dans la place de ces gens qui allaient voir Jésus. Ils ont tous vu le paralytique. C'est la seule façon pour lui de survivre. Ils avaient tous vu cet homme. Je me demande combien sont passés devant cet homme avec un cœur un peu brisé, avec la conscience travaillée pour dire « Oh, mais il faut faire quelque chose pour cet homme-là, le pauvre. Ben, ça serait bien qu'il... Ben, il ne peut pas le faire, il est paralytique. » ce n'est pas la peine de dire, mais écoute, va voir Jésus. Petit problème. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas la capacité. Mais sans cette conviction, on n'ira pas plus loin. Mais ce n'est pas la seule chose que je vois chez les hommes aussi. Parce qu'il y avait aussi, avec la conviction, il y avait la compassion. La compassion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à l'époque, on ne s'associait pas comme ça avec des hommes, des personnes malades. Ils étaient une classe sociale à part. Peut-être avoir pitié d'eux, ça c'est une chose. Mais s'arrêter vraiment pour aider et s'intégrer dans la vie de telle personne, normalement ça ne se faisait pas. Mais eux, convaincus, cette conviction que sans Jésus, il n'y a plus d'espoir pour cet homme, ils avaient la compassion au point où ils ne pouvaient pas tout simplement le laisser à part. Il faut intervenir. Il faut intervenir. La compassion dans la Bible, ce n'est pas utilisé dans ce texte, mais il y a d'autres textes où Jésus, en voyant la foule, avait de la compassion pour les gens. Il avait de la et ce mot que nous traduisons par compassion en français, c'est un mot qui parle du fait qu'ils étaient troublés à l'intérieur de leur esprit. C'était une émotion extrêmement forte. C'est une émotion qu'on ne peut pas ignorer. C'est l'émotion que vous avez quand le médecin vous donne un bilan et dit « les nouvelles ne sont pas bonnes ». Vous savez cette sensation que vous avez? C'est la sensation que vous avez quand l'hôpital téléphone pour dire « est-ce que vous êtes les parents d'eux ?» C'est quelque chose qui vous travaille à l'intérieur. Et ces hommes, ils avaient ça, la compassion, parce qu'ils savaient qu'en s'arrêtant pour aider cet homme, il est fort probable qu'il n'ait pas la possibilité d'entrer dans la maison. C'est un sentiment qui coûte quelque chose. Ça coûte du temps, ça coûte de l'émotion, ça coûte de toutes sortes de choses. Et si vous avez une telle compassion, ça veut dire que mais je vais faire ce qu'il faut faire face à même à l'opposition pour aider cet homme à trouver Jésus. Un texte qui me frappe énormément dans 1 Pierre chapitre 3, dans Pierre qui parle aux croyants, il a dit ceci, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et en ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Autrement dit que si on prend le temps de s'investir dans la vie des gens qui ne comprennent pas l'Évangile, qui ne veulent pas comprendre l'Évangile, et même qui vont se moquer de nous parce que nous croyons l'Évangile, nous risquons d'être mal compris, méprisés, les calomnies, d'être mal jugés et tout. Mais si nous sommes convaincus que Christ est le seul chemin, avec cette compassion qui nous pousse à faire tout ce qu'il faut pour amener les gens, comme ces hommes, on peut voir Dieu travailler dans leur vie. Mais on continue pour dire, le texte dit qu'ils étaient portés par 4 hommes. Alors ça, je trouve très intéressant aussi, parce que s'il n'y avait qu'un homme qui avait vu ce paralytique, voire 2, ce n'est pas évident d'apporter un homme paralysé, qui ne peut pas bouger sur son lit, sur le chemin jusqu'à la maison, mais il y en avait 4. Et ces 4 ont formé une équipe ensemble, et c'était là, troisième mot, coopération de 4 hommes. Chacun prenait un coin du lit, Je pense que c'était assez facile au début de s'organiser. Il n'y avait pas de commission d'études pour savoir comment apporter un homme. Non, mais quatre hommes, quatre coins du lit, tout le monde prend un coin et on y va. Mais il fallait les quatre. Les quatre devaient travailler ensemble. Et je pense que pour nous aussi, c'est essentiel. Je vous encourage à même... dans votre tête maintenant, établir une liste. Quelles sont des personnes de ma famille, de mon entourage, à mon travail, de mes amis, vers qui je veux apporter cette bonne nouvelle, mais pour des raisons diverses, il n'y a que des obstacles. Et de former une équipe et dire, je vous demande, mes amis dans l'Église, de prier pour tel ou tel ou tel. Et comme équipe, on coopéra avec cette coopération de prière, de former des équipes de prière pour prier pour nos amis, les membres de nos familles. J'ai très à cœur les enfants, nos petits-enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vous avez certainement une liste comme ça aussi. Et de pouvoir dire avec les autres, est-ce que nous pouvons prier pour mon fils, pour ma fille, pour mon petit enfant. Et vous, je sais que vous priez ensemble. Nous sommes sur la liste WhatsApp pour l'église de Pontcharrat. Nous suivons de très près vos sujets de prière et nous prions avec et pour vous. Alors, je vous encourage à continuer sur ce chemin et avec la coopération dans la prière pour l'évangélisation, d'amener les gens à Jésus. On prend comme ça et de s'encourager mutuellement. Vous avez un enfant qui ne suit pas le Seigneur, il y a certainement d'autres personnes exactement dans la même situation. De s'encourager, de prier ensemble, de demander des nouvelles, de demander à Seigneur, voilà ce que je prie, Seigneur, mets sur leur chemin d'autres personnes qui peuvent, par leur façon de vivre, aussi leur montrer la vérité de Jésus. Alors vous savez, les parents, ils sont assez limités des fois, dans leur, parce que, je sais déjà ce que papa croit. Oui, mais si d'autres personnes disent exactement la même chose, et par leur manière de vivre. Donc la conviction, Jésus-Christ, il est la seule solution. Il n'y a pas d'autre espoir. La compassion qui nous pousse à aller plus loin que la conviction, à l'action, à dire que même si ça me coûte mon temps, mon énergie, d'autres choses, mais je vais participer à cela. Je vais faire tout ce que je peux. Par la coopération, en sachant que je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de la communauté. Je veux demander aux gens autour de moi de participer avec moi à ce travail. Mais là, on arrive à un moment très intéressant dans cette histoire. Bravo pour ces quatre hommes. Conviction, 100%. Bravo. Compassion, exemplaire. Coopération, magnifique. Ils arrivent à la maison. Petit problème. Il n'y a plus de place. La maison est remplie. Il y a certainement des gens à l'extérieur de la porte ou des fenêtres et tout qui font de leur mieux. Vous pouvez imaginer les gens qui, tout le monde, là, je veux écouter, laisse-moi voir, cet homme devant moi, il est plus grand, ce n'est pas... Il y avait tout cela. Hein. Je suis sûr que c'était comme ça. Ce n'étaient pas les gens obéissants qui écoutaient comme ça. Non, Jésus parle à l'intérieur de la maison. Les gens font de leur mieux pour écouter. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quatre hommes avec un lit, avec un paralytique qui veut entrer. Alors là, quand même, non, ça ne se fera pas, au moins pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, ces quatre hommes? Ah, cher ami, on est trop tard. Désolé, on a fait de notre mieux. Écoute, reste ici à l'extérieur, peut-être après ou demain. Mais bon, bon courage, on a fait de notre mieux, mais voilà. Et de toute manière, nous voulons écouter Jésus et eux, ils... Non, ce n'est pas ce que le texte dit. La porte est fermée. Bon, alors là, quelles sont d'autres possibilités? Alors, à l'époque, les maisons étaient plates, on pouvait, ce n'était pas comme aujourd'hui et tout, ils pouvaient, avec de la paille et tout, entrer à l'intérieur, mais il faut d'abord monter par l'escalier qui mène au toit, qui donne accès au toit. Alors déjà, porter un homme paralytique par l'escalier, ça ne serait pas évident, hein? Mais ils le font. Alors imaginez maintenant la situation. Vous êtes un des privilégiés à l'intérieur de la maison, au pied de Jésus, qui prêche, qui donne tant de renseignements magnifiques, et d'un seul coup, il y a des choses qui commencent à tomber du toit. Qu'est-ce qui se passe là? Et ça devient de plus en plus dérangeant. Qu'est-ce qui se passe sur le toit? Et petit à petit, il y a une ouverture. Et Jésus ne dit rien. Jésus aurait pu dire, excusez-moi, moi je prêche, je suis quand même le Fils de Dieu. Non, mais Jésus laisse faire. Il laisse faire. Je pense qu'il y avait beaucoup d'agitation parmi les auditeurs. Non, il n'y avait pas. Oh, bon, ça c'est. Non, mais il dirait, mais ce n'est pas possible. Il dérange tout. C'est Jésus qui parle devant nous. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Et petit à petit, même le lit commence à descendre et tout. Non, un jour, au ciel, s'il y a un moment de questions-réponses et tout, j'espère, j'aimerais interroger quelques croyants qui étaient là ce jour-là pour dire, alors, raconte-moi, racontez-moi, s'il vous plaît. Comment avez-vous vécu ce moment? Je pense qu'il y avait de la colère, de la frustration, des critiques, toutes sortes de choses contre ces quatre hommes qui avaient l'audace de déranger une réunion publique de Jésus devant tout le monde. Mais bon, le lit descend et Jésus regarde ces quatre, les quatre sont toujours sur le toit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la consécration, voilà le quatrième mot, la conviction qui les a amenés à une compassion, qui leur a amenés à la coopération avec une consécration, voulant dire que si la porte est fermée, eh bien là, on va trouver une autre solution. On va passer par le toit. Rien ne va nous arrêter. Cet homme a besoin de Jésus. Point. Et nous ferons tout ce qu'il faut, même si ça dérange. Donc, on revient à la question de ce matin. Comment pouvons-nous rendre témoignage de l'amour de Jésus-Christ dans un monde indifférent, dans un monde incrédule, et dans un monde même maintenant qui passe à une autre étape de critiquer même l'idée de présenter la vérité? Vous savez que au début de mon ministère et tout, s'il y avait des questions sur l'évangile, c'était basé sur les arguments. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Alors là, j'avais toutes les réponses imaginables pour répondre à cette question. Est-ce que Jésus-Christ était vraiment Dieu et homme? Pas de problème, je peux vous montrer par les versets et d'autres. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? J'ai même un livre, même deux ou trois dans ma bibliothèque, qui prouve la résurrection de Jésus-Christ en plus. Donc, pas de problème. Vous avez une question? Il y a une réponse. Maintenant, c'est que ce n'est pas même pas la peine de poser la question parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vérité. Il y a chacun croit comme il veut, à condition de ne pas troubler quelqu'un d'autre. Vous pouvez croire ce que vous voulez et dire que votre position est supérieure, c'est l'orgueil et c'est même... c'est mauvais pour la société. Face à cet obstacle-là, il n'y a pas 36 solutions. C'est Jésus qui doit, il faut être convaincu, être rempli de compassion, travaillons ensemble dans la prière et la communauté avec l'idée que nous ferons tout ce qu'il faut par une consécration pour amener ces gens à Jésus. Ça, c'est ma prière pour vous. Je vous demande de prier pour nous dans ce sens, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je suis tellement content de voir comment, ce que le Seigneur fait autour de Pontcharrat, à Brignoux, à Chambéry et à Aberville. Mais il y a beaucoup de terrain toujours à faire. Donc ensemble, par l'amour du Seigneur, que nous soyons des disciples de Jésus-Christ, convaincus que Jésus-Christ, il est le seul chemin. Et ensemble, voyons comment Dieu va pouvoir dire, mais grâce à votre foi, à celui-là, à celle-là, ses péchés sont aussi pardonnés. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Prions. Merci notre Père pour la joie que nous avons d'avoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu nous as convaincus que tu es le Fils de Dieu, que nous avons en toi la vie éternelle. Nous voulons te remercier de tout ce que tu as déjà fait dans nos vies et nous voulons collectivement prier maintenant pour ceux autour de nous qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas ou qui refusent de croire en toi. C'est toi seul qui peux convaincre les cœurs. Et nous te demandons pour la gloire de ton nom de toucher les cœurs, d'amener beaucoup de personnes vers toi, qu'ils puissent aussi recevoir de ta part le pardon de leurs péchés et pouvoir dire « Oui, je suis aussi enfant de Dieu ». Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Paul pour ce rappel.